Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 11 concernant l'évangile du royaume de Dieu. Et nous sommes à la deuxième partie de l'espérance et l'attente. Et cette étude se terminera donc aujourd'hui, et que le Seigneur puisse nous aider. Et je dois vous avouer que je ne pensais pas pouvoir le faire, car l'ennemi m'a attaqué et voudrait que j'aie une troisième pneumonie. Je refuse cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Il est vrai que quand on a 90 ans, nous devons être chaque jour prêts pour rencontrer notre Sauveur et Seigneur et notre Papa céleste. Ça, c'est une vérité absolue, incontournable, mais j'ai demandé que le Seigneur m'aide à terminer cette série. Et je suis à sa disposition de toute façon. Chers amis, un évangile éternel nous est promis dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Il viendra à la chute de Babylone. Babylone, c'est la tentative gigantesque des hommes pour se tirer eux-mêmes d'affaires. L'effort désespéré pour s'affranchir des puissances sinistres et néfastes du destin. C'est dans cette destinée tragique de l'homme et dans ce dédale de fatalité que pénètre l'Évangile. En premier lieu, vient l'Évangile humain, tel que nous l'avons eu jusqu'ici. Son propre est de diviser. Des individus sont mis à part. Des communautés sont fondées, se distinguant du milieu ambiant. C'est en se séparant ainsi tout d'abord qu'on annonce le nom de Jésus-Christ comme étant celui du Seigneur du ciel et de la terre. Mais dans cet évangile peut se glisser facilement une erreur fondamentale. Ceux qui sont mis à part se considèrent parfois comme meilleurs que ceux dont ils se sont séparés. Or, ils se sont mis à part, ce doit être uniquement pour apporter dans ce monde l'amour de Dieu. Ils doivent être pour les autres hommes un peuple sacerdotal. Spirituellement, ils doivent donc vaincre le monde. Or, si je remporte la victoire sur le monde, je l'attache à moi. Je n'accepte plus qu'il soit sans Dieu. Des hommes et des femmes animés de pareils sentiments sont la lumière du monde. Ils sont qualifiés pour travailler au jour de Jésus-Christ qui amènera le second évangile, c'est-à-dire l'évangile éternel. Cet évangile éternel ne provoque plus de scission. Il ne sépare pas. Il s'étend sur tous, sur tous les peuples, sur tous les païens, car ce qui est éternel embrasse les cieux, la terre, et ce qui est même sous la terre, la mer et tous les abîmes. N'entendez-vous pas dès aujourd'hui l'ange de l'évangile éternel? Les barrières disparaissent. Le progrès se fait insensiblement. Les uns s'en rendent compte, d'autres ont peur de cet évangile. Mais qu'on s'en rende compte ou non, cet évangile vient. Aujourd'hui déjà, on commence à ne plus demander « Es-tu chrétien ?» mais on demande « As-tu la crainte de Dieu ?» J'étais plus de 40 ans, un chrétien comme beaucoup d'autres. Mais avoir vraiment la crainte de Dieu, ça, c'est nettement différent. Car l'ange de l'évangile éternel le proclame sans distinction. Craignez Dieu, vous, païens, peuple de toute langue, adorez celui qui a créé les cieux et la terre. Vous êtes libres. Babylone est tombée. Tous, vous appartenez à Dieu. Vous devez le désirer simplement. Le temps vient où Dieu ne fera plus de distinction entre qui est pieux et qui ne l'est pas, entre les justes et les injustes, entre les chrétiens et les païens. Heureux sera qui ne se scandalise pas de ce Jésus et de cet évangile. Il faut accepter de ne pas voir aujourd'hui le jour du Fils de l'homme. Ce moment n'est pas encore venu. Soyez patients. Il faut encore beaucoup travailler avant que le jour véritable vienne. On peut fabriquer des pseudo-jours, mais le vrai jour, on ne le fabrique pas, car il vient de Dieu. Il était nécessaire que l'Évangile fût prêché au peuple comme il l'a été, sous une forme qui était enveloppée de la vérité. Or maintenant, l'enveloppe éclate. C'est le moment où Jésus vient. Ce jour approche déjà. Mais il nous faut consentir à ce que tout change. Croyez-vous donc que le Sauveur puisse s'accommoder de quoi que ce soit d'existant? C'est du royaume des cieux qu'il s'agit pour le Sauveur. Tous les efforts des chrétiens pour arriver à la justice, à la vérité et à la vie n'arrivent pas au but. On a beau lutter et combattre, c'est tout au plus si un individu ou une communauté arrive à se mettre sous la protection particulière de Dieu, de façon que l'esprit du monde et les portes de l'enfer elles-mêmes ne puissent en avoir raison. Mais où est la victoire? Voilà bientôt 21 siècles qu'on lutte. Où est la victoire? La victoire du Dieu Tout-Puissant qui fait resplendir la terre, où le péché languit et meurt, où Jésus est roi et où les hommes par lui deviennent véritablement libres. La victoire complète ne vient qu'avec l'achèvement du royaume des cieux. Les associations religieuses font beaucoup. La prière silencieuse dans le recueillement d'une petite chambre. Et tout cela, c'est vraiment un pur joyau. Mais nous attendons encore le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est une nouvelle révélation, un nouveau déploiement de la gloire de Dieu qui dépassera tout ce dont jusqu'ici nous avons été témoins. Le royaume des cieux prend des formes toujours nouvelles, jusqu'à ce que vienne la dernière où le roi pourra apparaître. Par les formes variées de la vie chrétienne, le Père Céleste n'a pas cessé de conserver et de préparer l'idée du royaume des cieux et la foi en lui. Mais à la fin du royaume des cieux, ce sera semblable aux dix vierges dont le principal souci c'est d'attendre la venue de l'époux. Ce qui, à la fin, doit par-dessus tout nous tenir à cœur, c'est la venue du roi. Il manque aux hommes un roi. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ils ont faim et soif d'un roi, souvent même sans s'en rendre compte. Si nous apercevons cela, nous devons concentrer toute notre force pour nous soumettre par amour au Seigneur Jésus. Nous n'avons plus le droit de rechercher notre avantage personnel, mais seulement Jésus. Seules les vierges sages seront admises à la réunion suprême où se traiteront les événements futurs autour du roi. Aucun de ceux qui cherchent leur propre intérêt ne pourra prendre part aux délibérations intimes avec Jésus. L'espérance du retour de Jésus chez les premiers chrétiens exprimait fortement cette conviction qu'il y avait encore quelque chose à achever. Jésus a commencé une œuvre, mais elle est restée inachevée. Comment Jésus reviendra-t-il? Ceci reste caché. Son mode de réparation, ou plutôt de réapparition sur notre terre, pourrait être passablement différent de ce qu'on se représentait autrefois. Dans l'oppression effroyable sous laquelle gémissent les hommes, on s'est fait, à des époques particulièrement difficiles, toutes sortes de conceptions mystiques. Dans cette gangue, l'idée du Christ a été préservée, mais aujourd'hui, nous comprenons que si l'on se contente de laisser le champ libre à Dieu, le royaume de Dieu pourra venir et se développer de façon toute simple et naturelle. Toutes nos espérances s'accomplissent par voie d'évolution, même l'espérance de l'avènement de Jésus-Christ. D'après les Saintes Écritures, ce retour doit se produire de façon catastrophique. Mais sur ce point, une extrême prudence est bien entendu nécessaire. À l'époque des apôtres, on avait perdu tout espoir de voir se produire un changement. Aussi, ne pouvait-on se représenter l'avènement de Jésus-Christ autrement que sous la forme d'un grand cataclysme. On pensait qu'à la venue du Sauveur, tout se mettrait à craquer et à trembler, au ciel, sur la terre et sous la terre. Il s'agissait alors de revendiquer, pour ainsi dire, une espérance visible au travers d'une coque transparente. Personne ne pouvait en ce temps-là concevoir comment un tel changement serait possible par l'évolution. Aussi, l'espérance fusa-t-elle comme le boulet sort du canon. Il est un fait que Jésus viendra bientôt et il réduira le monde en poussière. Nous devons donc ajouter aux déclarations des hommes de ce temps-là les expériences faites depuis lors. S'il a fallu 300 ans pour que s'effondra le seul empire romain, c'est une expérience par laquelle Dieu a parlé. Il a fallu que d'autres peuples fussent également passés au crible. Dieu a cherché partout dans le monde des hommes capables de le servir fidèlement. Des peuples nouveaux ont été appelés. Dieu ne se hâte pas. Il cherche et recherche sans cesse jusqu'à ce qu'il ait trouvé des éléments susceptibles de se développer. L'alliance du christianisme avec l'évolution du monde a progressé bien lentement, c'est vrai. Et c'est seulement à présent que l'Esprit Saint de Jésus-Christ peut commencer à pénétrer les peuples. Dieu a le temps. Dieu a toujours patience. Oui, Dieu, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mais on fera de nouveau l'expérience que le Saint-Esprit vient à l'insu des hommes. Seul les vierges sages remarquent que la domination de Christ est en train d'approcher. Le Christ pourra régner avant qu'on s'en aperçoive. On remarquera tout à coup qu'il y a quelque chose de nouveau, mais on en ignorera l'origine. L'élément nouveau est dans le monde comme une semence, il croît silencieusement. L'histoire du monde, l'histoire des hommes, l'histoire des peuples doit passer entre les mains de Jésus. Il le faut, afin que les hommes ne puissent plus en faire à leur volonté. En ce qui concerne le retour du Sauveur, il est dit dans la parabole qu'il reviendra dans sa gloire comme fils de l'homme. Fait infiniment bienfaisant, Dieu ne nous éblouira pas en quelque sorte de sa gloire, dont nous ne pourrions supporter l'éclat. Il viendra dans la gloire des hommes, c'est-à-dire dans la vie pleine et vraie qui est réservée à l'homme et que chacun peut comprendre. C'est parce qu'il est si humain que le Sauveur apparaît à tous les peuples. Un homme véritable intéresse tous les hommes. En lui s'effacent les différences de classe et de nationalité. C'est pour cette raison que Jésus vient dans la chair, c'est-à-dire dans la plénitude de l'humanité. L'apôtre Jean le déclare, « Quiconque ne reconnaît pas que Jésus est venu en chair, qu'il est le juge et le sauveur de tous les hommes, n'est pas de Dieu. » C'est aussi pour cette raison que Jésus se manifestera de nouveau en chair lors de son avènement. Il reviendra comme fils de l'homme. L'éternité, oui, l'éternité qui vient avec le fils de l'homme est accompagnée de feu. Dieu soit loué, voilà assez longtemps que les hommes, complices de l'ennemi de Satan, osent corrompre la société tout entière. Seul le feu éternel et la justice qui l'accompagne détruiront les liens qui attachent si fortement ensemble Satan et l'homme. Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, voire même dans des endroits où on juge les hommes, eh bien, on appelle aujourd'hui souvent le mal le bien. Le mal devient le bien. Et le bien est représenté en somme comme étant le mal. Dans les tribus actuelles, tout homme sera jugé d'après cette norme. A-t-il eu, oui ou non, le sens de l'humanité? On ne demandera pas à quoi as-tu cru et à quoi n'as-tu pas cru, mais on pourra utiliser tous ceux qui ont été des hommes, il n'y en a que les monstres, tels que, on ne veut pas les nommer, parce que tout un chacun sait qui ils sont. Ce sont des monstres dont on ne pourra, hélas, rien faire. Et voici à quoi se reconnaît un homme. Il a pitié de ceux que le Sauveur appelle, les plus petits d'entre ses frères. Oui, il a pitié de ceux-là, de ceux que l'on maudit et qui souvent inspirent en quelque sorte une aversion physique. Il veut les aider à sortir de prison. La société humaine est souvent la pire des prisons. Celui qui est mis au banc de la société, celui qu'on abreuve d'injures, peut justement être de ces petits qui appartiennent au Seigneur. Souvent, dans une famille, on méprise un pauvre bougre, un avorton qui a la crainte de Dieu et pourtant ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler comme les autres. Quand il meurt, on se dit avec étonnement: quel trésor nous avions près de nous. On reconnaît alors qu'il était tout de même un de ces petits du Seigneur. Et c'est d'après ton attitude envers ces petits que Jésus, le roi des peuples, te jugera, toi. L'homme inhumain doit disparaître. Quelques suppôts de Satan suffisent à pervertir des millions de gens. Comme on serait d'humeur douce et facile s'il n'y avait pas ces monstres-là. Le jugement de Dieu peut frapper dès maintenant en silence ces êtres qui sont des inhumains. Il peut les frapper. Le jugement est une chose sérieuse. C'est une réalité. Un tel jugement est le prélude du règne de Dieu. Ce n'est pas la fin ultime. Il faudra que les peuples sortent de leur fange, qu'ils soient débarrassés des éléments impurs. La terre doit appartenir au Seigneur. de la terre et des hommes qui y sont, il doit sortir quelque chose de bon. Tel est l'avenir de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Voilà en quoi consiste le jugement. Les œuvres de chacun seront révélées. Il se verra tel qu'il est. Et quiconque est sur la mauvaise voie devra s'arrêter. Vous non plus, vous ne serez pas sauvés sans ce jugement. Il faut souhaiter un jugement pour nous et pour tous, afin que soit révélé ce que nous sommes. Il n'y a pas de pardon sans châtiment. Tout se paye. On doit sentir qu'on s'est trompé. Sans cela, on ne se corrige pas. Avons-nous commis des fautes? Elles doivent s'expier. Et alors vient le pardon. On ne bande pas une blessure tant qu'elle n'a pas été nettoyée. Jésus est venu pour ôter nos péchés. Saint Jean, chapitre 3, verset 5. Impossible d'expliquer théologiquement comment il le fait. On ne peut que le croire et l'expérimenter en fait. Si le péché, c'est quelque chose que l'on puisse ôter, alors nous sommes des pécheurs, mais nous ne sommes pas que péchés. Nous devons croire que nous sommes des créatures qui, par la puissance de Dieu, peuvent être purifiées du péché. Si je crois que Jésus-Christ est venu pour ôter nos péchés, si je le dis néanmoins à moi, il ne les ôte pas. Dans ce cas-là, je commets un grand péché. Avez-vous compris? Au long des siècles, Jésus enlève à tous les hommes, femmes, il leur enlève tous les péchés. On peut dire comme une écume, et à tous ceux qui en ont le désir. En tant que prémisse de l'humanité nouvelle, nous devons défendre vis-à-vis du monde cette vérité-là. Naturellement, il faut avoir honte de nos péchés. Et comment? Il faut qu'il se fasse entre nous et les péchés du monde une rupture. Nous devons jeter loin de nous la souillure qui règne dans le monde. Mais ensuite, nous devons tenir ferme dans le monde comme des combattants, avec la conviction inébranlable que Jésus est venu pour ôter le péché. Murmurer en tremblant, peut-être vais-je me perdre, va savoir. Ça, c'est déjà donner barre à l'ennemi. L'anxiété, cela fortifie le péché. Le jour de Jésus doit être conquis par la conviction que Jésus ôte vraiment le péché. Beaucoup combattent pour que ce jour, avec colère, on peut dire. Il est dit, en effet, dans les Saintes Écritures, qu'ils sont nombreux ceux qui combattent pour ce jour avec colère. Oh, que le feu du ciel tombe donc sur ce monde impie. D'autres combattants, dans l'incrédulité, ils se lassent, ils faiblissent et veulent abandonner le combat. Il y en a qui n'ont pas la force de continuer le combat. D'autres supportent sans s'émouvoir qu'une multitude d'hommes et de femmes soient voués à l'enfer et à la mort pendant que eux-mêmes sont sauvés et assis confortablement dans un fauteuil dans leur salon devant leur télévision. Ce ne sont pas là des soldats de la foi. Jamais le jour du Christ ne viendra de la sorte. Il faut d'abord arriver à ce que le péché ne fasse plus partie de nous. Ensuite, viendra le tour des autres. Alors, il faudra qu'ils soient jetés en masse dans le feu, afin que eux aussi aient honte et que le péché leur soit ôté. Pardon. Le jugement est sévère, mais toujours, il est le jugement, finalement, en vue du salut. Tout ce que Dieu fait tend à la rédemption. Pour l'instant, il y a des individus sauvés, mais la société ne l'est pas. C'est d'elle que procède le meurtre, l'adultère, la prostitution, le vol, le parjure, le blasphème. Si l'on ne veille jour et nuit, on n'échappe pas à l'influence de la société. Dans cette existence collective de l'humanité, il faut que la lumière puisse pénétrer par le jugement. À notre époque, nous voyons tout au moins se poser des questions auxquelles on n'avait pas songé autrefois. Nous ne nous demandons plus comment faire la guerre, comment conquérir des pays, mais comment pouvons-nous créer la paix? Comment assurer le bonheur des peuples? Comment leur permettre de se développer? Aujourd'hui, tout homme qui pense moralement doit se demander « Comment puis-je aider les autres ?» Le fait que ces questions sont dans l'air annonce l'approche du jugement dernier qui apportera le salut au peuple de la terre. Quand le jugement s'abattra sur le prince, l'antéchrist de ce monde, nous ne nous en tirerons pas indemnes. Le feu du jugement déferlera sur nous aussi, parce que nous avons été sous sa domination. Et l'homme qui a mené une vie confortable sous le prince de ce monde aura beaucoup à souffrir. Mais au milieu de ses souffrances, il aura la certitude que c'est pour son bien. Quand la fausse domination des hommes s'écroule, les gens se croient perdus. Ils crient « mort et malheur ». Mais Dieu soit loué, ils finissent par crier et dire « Alléluia, gloire à Dieu ». Dans le jugement même, nous appartenons à Dieu et nous collaborons avec lui. Pourvu que nous continuions à croire qu'il est notre Père. Oui, Dieu est notre Père. Il est mon Papa. Que le jugement vienne donc et qu'il nous libère des influences étrangères. Car nous t'appartenons, ô Yahvé, l'Éternel. Admettre un enfer où Dieu n'ait plus rien à dire pour toute l'éternité, c'est abolir en quelque sorte l'évangile tout entier. Il n'y a rien, ni personne dans le monde, si ce n'est Dieu. C'est lui, celui qui ne croit pas, sera condamné. Cela signifie proprement qu'il restera dans la condamnation où il se trouve déjà maintenant par le péché. La condamnation vient naturellement sur le monde. Nous sommes condamnés si nous ne croyons pas, car alors le monde va son chemin et le destin du monde est aussi notre destin. Mais toute notre énergie doit tendre à faire lever cette condamnation. C'est par notre foi qu'elle sera levée. Il est dit « Veillez donc à ce que la foi subsiste et chassez du monde la condamnation. » Il nous faut combattre jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte de sang, afin que tout le ciel, toute la terre et le séjour des morts tout entier puissent être enfin soumis à Jésus. Si je dois perdre espoir pour un seul homme, pour une seule région, le fardeau de la mort persiste, un fardeau de douleur, de nuit et de ténèbres. Or Jésus n'est plus, en ce cas-là, la lumière du monde. Quand il est dit dans la Bible, « Voici, je fais toutes choses nouvelles », cela répond à l'aspiration des hommes. Le christianisme a fortifié en l'homme l'aspiration vers le mieux. On y voit poindre cette idée que tout doit changer par l'intérieur. Du fait que le Sauveur a voulu allumer sur la terre provient aussi, et cela provient de cette aspiration au renouvellement total. Je répète, du feu que notre Sauveur a voulu allumer sur la terre. Ce feu provient aussi de cette aspiration au renouvellement total. Pour peu que le moindre atome de poison pénètre dans notre âme, tout est gâté. Il faut que tout, sans ménagement, soit totalement nouveau. Nous devons, dans notre espérance, insister davantage sur l'ensemble et ne pas nous laisser influencer par des textes bibliques isolés, souvent isolés par nous-mêmes, que s'ils ne sont pas mis à jour dans le fond, ne se laissent pas comprendre. Or là où les paroles de Dieu dans les Saintes Écritures ne laissent pas la moindre incertitude, elles embrassent tout, le ciel et la terre, tout dans leur espérance. Nous autres hommes, et j'ajoute femme, vous l'avez compris, nous sommes facilement inquiets. Et les inquiets se sentent à moitié condamnés. C'est une raison de plus pour qu'aujourd'hui, nous soyons tenus de saisir l'ensemble des cieux nouveaux, une terre nouvelle, un tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il est dit ailleurs que les incrédules et meurtriers sont tous condamnés. Il n'y a pas à effacer de la Bible cette contradiction. Elle y est. Mais la seule question qui se pose est celle-ci. Dans quel sens optons-nous ? Prêcher le salut, la résurrection, et ensuite condamner simplement les gens, c'est pas tellement équitable. Est-ce que, en fin de compte, pourquoi pas, toute âme ne pleure pas dans le silence de lui-même, d'elle-même? Considérons l'ensemble de l'humanité. Qui osera condamner? Dieu est là, qui justifie. Je ne peux pas dire le ciel ou l'enfer, la lumière ou les ténèbres, le diable ou Dieu. Ce serait introduire le dualisme dans le monde. Cette distinction ne vaut que pour la période de lutte. Pour la fin, il y a Dieu. Et croyez-moi, il y a Dieu seul. Sans doute, ce n'est pas chose aisée de lutter pour que cet avenir soit. Il faut commencer par dire, en moi aussi, tout doit être rendu nouveau. Il faut alors faire l'abandon de sa vie. Notre vie doit aller à l'atelier de réparation. Et là, on prend peur. On prend peur quand tout est démonté comme une vieille machine. Et cette peur enlève la certitude aussi longtemps que le but n'est pas fermement, très fermement assuré. Mais quand je connais le but, quand je sais que Dieu veut faire toute chose nouvelle, alors la force m'est donnée d'offrir ma vie et de coucher sur l'autel mon propre moi. N'offrons pas nos sacrifices avec des pleurs et des cris, mais avec joie. Quand il s'agit que toute chose soit nouvelle, il faut offrir également ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui nous semble juste, les choses qui nous sont devenues familières et accoutumées. État, famille, église, absolument tout doit être porté à l'atelier. Je répète, l'État, la famille, même l'Église, tout doit être porté à l'atelier. Avec joie, il nous faut remettre à Dieu le monde entier, mais le fait totalement chaque jour, en toutes circonstances. Dieu le fait. Même dans le bien, nous devons conserver cette mobilité, car aussi longtemps que nous retenons les parties de notre vie en disant « ceci va bien », elles ne deviennent pas nouvelles. Il faut que nous remettions tout à Dieu, oui, afin qu'il le renouvelle. Le peuple de Jésus-Christ doit collaborer à cette tâche-là. Et si un jour, la volonté totale de Dieu, la volonté bonne, parfaite, clémente, finit par être dans nos cœurs, si cette volonté de Dieu sur la terre coïncide avec sa volonté dans le ciel, alors les plus grandes choses peuvent s'accomplir. Alléluia. Pensez-vous que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre quand il viendra? Trouvera-t-il des gens qui l'aident et qui soient prêts à le recevoir, qui ne soient pas retenus par autre chose? Il y en aura peu, mais si peu qu'il soit, la parole s'accomplira. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Si la famille spirituelle de Jésus-Christ atteint l'idéal qui lui est assigné, l'évolution pourra se faire finalement très vite. Mais avant qu'on en soit là, il faudra encore un peu de temps. La nuit est passée et le jour pointe. Il ne semble pas, il est vrai, qu'aujourd'hui, qu'il fasse jour, nos pieds foulent encore le péché, nos mains ne parviennent pas à faire ce qui est bien, ce qui est vrai et juste. Autour de nous, des milliers et des millions d'êtres s'enfoncent dans la fange de la vie, ils meurent en masse. On ne dirait guère qu'il fasse jour sur la terre. Mais notre foi, notre amour pour Dieu, l'espoir que nous mettons en lui, cet espoir que nous mettons en lui exige que nous disions, pourtant, la nuit est passée, le jour approche. Car c'est devenu une réalité à l'heure où Jésus est né. Et c'est une réalité devant Dieu. Aussi, devons-nous dire, au nom de Jésus-Christ, il faut que cela devienne aussi une réalité sur la terre. Jésus est le Seigneur. Donc, le jour doit venir. Mais qu'est-ce que le jour? Le jour, c'est l'amour de Dieu. Le jour se lève dans ton cœur quand tu crois en l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait s'évanouir, oui, fait carrément s'évanouir tout ce qui est mauvais et tout ce qui est vulgaire et tout ce qui est désespéré. L'amour de Dieu triomphe aussi de la mort. Mais il faut que ce soit l'amour de Dieu, un amour qui aime aussi les ennemis, un amour qui ne rejette rien ni personne, un amour qui franchisse tous les obstacles comme un héros par-dessus les insultes, par-dessus les mépris, par-dessus le dédain. Oui, un amour qui marche à travers le monde avec le casque de l'espérance sur la tête. Jusqu'à présent, nous n'avons pas osé dire « Jésus est né » et par conséquent, toutes les créatures sont aimées. On ne l'a pas osé parce que beaucoup semblent ne poursuivre que leur penchant à eux et trouver du plaisir à être pécheurs. Mais personne ne pêche avec joie. Le pécheur soupire toujours. Il soupire. Celui qui est voué à la mort, il ne peut en aucun cas être joyeux. Et c'est vers ce gémissement des pécheurs et vers ces plaintes de la mort que va hardiment l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Oui, l'amour de Dieu qui s'est fait tout homme en Jésus-Christ. Jésus veut qu'on voit en lui l'amour infini de Dieu le Père. Dans cet amour, il veut être la flamme qui purifie. C'est l'amour de Dieu. Seul, c'est sa miséricorde, seul, qui nous englobe dans son jugement. Je répète, dans cet amour, Dieu veut être la flamme qui purifie. C'est l'amour de Dieu seul, c'est sa miséricorde seule qui nous englobe dans son jugement. Et cela, afin de nous affranchir de tout, absolument de tout ce qui fait de nous actuellement des esclaves, qui fait de nous des malheureux, et qui vivent aujourd'hui, et qui demain, hélas, tomberont dans les ténèbres de la mort. Il faut donc que l'amour s'étende à tout. Voilà donc notre tâche d'aujourd'hui. Voilà donc ce que tu dois faire, mon frère et ma sœur. Il nous faut devenir des enfants du Père qui nous aime tous. Il nous faut aimer le Père céleste. Aimer le Père quand même vous ne comprenez pas tout. Et moi non plus. Vous comprenez pourtant le mot Père. Devant lui, tout cœur d'homme doit s'ouvrir et aimer. Remercions donc le Père Céleste de ce message. Jésus est né, le jour est venu. Ainsi nous pouvons combattre et faire s'incarner en nous le jour qui existe déjà. Nous pouvons lutter pour la résurrection et pour la vie. Qu'il rende grâce aussi quiconque connaît les afflictions, l'angoisse, la détresse et la souffrance. Reconnaissant, son cœur sera plus léger. Oui, et le combattre pour que l'amour de Dieu puisse triompher et que le jour vienne. Je répète, nous devons reconnaître pour que notre cœur devienne plus léger et nous ne devons pas avoir peur de combattre, être vigilants et combattre et de veiller, prier pour que l'amour de Dieu triomphe et que le jour vienne. Et ainsi, nous prions non seulement pour nous, mais pour nos frères et sœurs, parce que nous sommes remplis d'amour pour tous les hommes. À travers le monde entier, nous pouvons devenir une communauté dispersée, et pourtant, nous pouvons être unis dans la foi. L'action de grâce et la prière sous l'inspiration d'un seul et même Esprit Saint. Amen. Chers amis, nous allons prier ensemble. N'ayez pas peur si je reprends quelques phrases de la prière précédente, car c'est important pour chacun d'entre vous qui venez d'écouter cette série. Alors vous pouvez prier dans votre cœur et vous pouvez donc répéter silencieusement les mots que je vais essayer de vous communiquer. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que j'ai péché contre toi. Je suis condamné par ta loi à la mort éternelle. Car ta parole dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que j'étais coupable du péché, j'étais séparé de ta présence. J'étais perdu et indigne de ton amour. Je ne pouvais pas m'approcher de toi sans ce terrible sentiment de culpabilité. Mes péchés et mon incrédulité me condamnaient. Mais je comprends maintenant que Jésus est mort sur la croix pour moi. Oui, il a souffert à ma place. Je sais que nul crime ne peut être puni deux fois. Quand une dette est acquittée, cette dette n'existe plus. Il n'y a pas lieu de la payer une deuxième fois. Donc rien ne me sépare désormais de toi. Maintenant, Jésus-Christ vit enfin en moi. Je peux paraître devant toi sans aucun sentiment de culpabilité, puisque tu m'as pardonné. Tu m'as admis dans la famille royale. Je suis ton enfant. Tu es mon père. Ta justice est la mienne. Ta vie est ma vie. Ta nature est la mienne. Je suis à toi. Mes péchés ont été mis au compte de Jésus-Christ et il en a payé le prix. Sa justice est mise à mon compte et je suis enfin né de nouveau. Je me réjouis maintenant de l'abondance de ta justice que tu m'as donnée maintenant. Amen. Amen. Chers amis, cette série étant maintenant terminée, je ne croyais pas d'y arriver. Oh là là, j'ose pas vous dire comment était mon état il y a encore 2 heures de là. Et c'est un miracle. Merci. Mais si il y a des miracles pour moi, il va sans dire que le Seigneur est juste et il a en réserve des miracles pour vous. C'est inévitable. Croyez-moi, c'est un Dieu d'amour. J'essayerai, Dieu voulant, demain ou après-demain, de commencer une nouvelle série. Pour autant que Dieu m'en donne la force. À bientôt. Soyez bénis. Je vous aime et je vous embrasse d'un un amour agapé de tout cœur, sincèrement. À bientôt.